C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de stand-up et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Camille Poignan. Salut Camille.
Salut Thibaut, salut tout le monde. De la blagounette, des bars, de la rigolade, on va parler ce matin de ces humoristes, plus précisément des stand-uppers qui nous font rire en 30 secondes chrono sur les réseaux sociaux. Pas mal sur TikTok quand même, on va faire peut-être un focus là-dessus. Et puis ben, on va se poser la question, est-ce que ces gens-là, c'est des créateurs de contenu? Est-ce que c'est juste des humoristes? Est-ce qu'ils se servent de ça pour recycler, de cette plateforme pour recycler? Ou est-ce qu'ils se font connaître sur TikTok, sur Facebook, Insta?
Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour les stand-uppers, stand-uppeuses, humoristes plus largement, eh bien, les réseaux sociaux sont devenus un passage obligé. Alors est-ce que l'humoriste, le mec qui te fait gaulerie, est-ce que c'est un créateur de contenu comme les autres? Est-ce que c'est ça aujourd'hui, hein? Et c'est vrai qu'Instagram, TikTok, notamment YouTube, évidemment il y a quelques années encore en arrière, sont devenus des incontournables. Et c'est là désormais que pour tous ces acteurs du monde du drôle, eh bien c'est là qu'on constitue une audience. C'est là peut-être que on donne des gages à ceux qui ensuite te programment pour remplir des salles.
Ouais, et ben il y a 15 ans, hein, ils se produisaient dans des salles de spectacle indépendantes, des cafés, des restos, et ils finissaient par être repérés, puis ils rejoignaient des compagnies théâtrales ou des institutions comme le Jamel Comedy Club. Il y a 10 ans, ça se passait sur YouTube. Hein, c'est là qu'on perçait en solo des Cyprien, par exemple, dans des formats plus longs, plus travaillés, sinon des gars du Palma Show. Et puis depuis quelques années, et notamment, on en parlera je pense toute l'année, une période de rupture durant le Covid. Tous ces gens qui font de l'humour sur les réseaux ou qui font de l'humour même en physique, ils n'avaient plus de lieu de travail, tout simplement. Donc, ils ont dû s'adapter encore plus fort. L'attention s'est déplacée sur les réseaux et plus précisément les réseaux de divertissement, ce qui fait qu'il y a eu un boom à ce moment-là sur le stand-upper rapide sur les réseaux.
Alors, énormément de choses à dire ce matin sur ce sujet. Ouais. Moi, j'aimerais commencer avec et te rendre compte d'une discussion que j'ai eue ce matin ici sur Twitch en préparation de cet épisode avec un monsieur qui s'appelle Léopold. Voilà, je sais que tu le connais aussi.
Oui.
Léopold qui cartonne sur Twitch avec une matinale de l'humour. Alors, si vous ne connaissez pas Léopold, ce qui est fort probable, allez immédiatement découvrir son compte sur sa chaîne Twitch. Hein. Je vous mets le lien en note de cet épisode. Tous les matins, eh bien, matinale de l'humour. C'est vraiment drôle, hein, pour le coup, c'est vraiment sympa. Donc, Léopold, il est humoriste. Il a commencé par le théâtre d'impro. Il a été chroniqueur radio. Et maintenant, c'est sur Twitch et YouTube, notamment, qu'il cartonne. Et ce matin, je suis allé dans son chat juste qu'elle lui posait quelques questions en préparant.
Oui, parce que sa matinale, elle est en gros de 7 à
juste
7
avant
à 9,
la nôtre.
Hein,
juste avant la nôtre, voilà, bon petit-déj, quoi. Et ce matin, je suis allé lui poser quelques questions et notamment de savoir si aujourd'hui, c'était un passage obligatoire, les réseaux sociaux, hein, les plateformes sociales, quand on était humoriste. Et il m'a raconté des trucs intéressants. Il m'a expliqué notamment qu'il y a peu d'humoristes aujourd'hui qui cartonnent vraiment sans avoir une véritable exposition sur les réseaux. C'est effectivement un obligatoire, c'est clé. Et il faut une grosse communauté pour remplir des salles, pour être programmé quelque part. Ça, c'est un obligatoire. Et ce qu'il m'a expliqué qui était très intéressant, c'est que la consommation de spectacles avait, selon lui, changé. C'est plus une histoire de surprise. Initialement, quand tu allais dans une salle de spectacle, quand tu prenais un billet sur la Fnac ou Billets Réduc, tu souhaitais avoir une surprise. Maintenant, tu veux connaître déjà les sketchs. Tu veux déjà connaître ton humoriste. Tu veux être sûr de ne pas te planter et planter ta soirée. Et à ce titre, eh bien, effectivement, les réseaux sociaux, c'est un endroit où tu vas pouvoir te rassurer avant d'aller jusqu'à ton acte d'achat. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc merci Léopold pour les feedbacks. Allez le suivre. Vous pouvez aussi le suivre sur TikTok, hein. Sur lequel il a une belle présence, 26 000 followers aujourd'hui sur TikTok. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'il disait il n'y a pas trop de différence par contre d'humour, hein, d'une plateforme à l'autre. Lui, il a le sentiment qu'il peut être pareil sur Twitch, pareil sur TikTok. Voilà, c'est intéressant.
Il ne s'adapte pas forcément au format qui va être très fast cam, très rapide sur TikTok. Il reste lui-même, quoi.
Exactement.
Ok, ce qu'on voit, hein, du coup, ça correspond à ce que disait Léopold, qu'il soit humoriste dans les salles, dans les cafés ou même sur les réseaux sociaux. Les deux métiers sont un peu devenus les deux faces d'une même même pièce, c'est un peu ultra complémentaire. Et moi, perso, je le fais à fond. Hein. C'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, on a parlé longtemps de Benjamin Tranier tous les deux, avec des sketchs, avec des radios, avec des chroniques. Et je suis ensuite allé le voir en spectacle parce que je savais que j'allais rigoler. Pour autant, avant, quand tu allais voir un spectacle, je sais pas, de Gad Elmaleh, tu regardais, tu ponçais, tu essayais de trouver des trucs. Maintenant, moi, j'essaye pas de trouver ce qui va se dire dans le spectacle, mais j'essaye vraiment de comprendre l'univers avant. Donc, complémentaire.
Oui, et d'ailleurs, je trouve que les comédie clubs se sont transformés. Hein, ils se sont transformés en véritables médias, finalement. Comédie club, Jamel Comédie Club, tu en parlais tout à l'heure. Madame Sarfati à Paris, le Donka. Il y a à peu près sur Paris plus d'une centaine de comédie clubs, ce qui est effarant. Et en quelques années, ils ont poussé comme des champignons autour de Paris. Nous qui sommes à Lyon, il y en a aussi un certain nombre. Hein, et je pense à peu près dans toutes les grosses villes françaises. Qu'est-ce que c'est un comédie club ? Petite salle exigu, parfois même une cave dans lequel on vient pour se marrer et voir des plateaux d'artistes. Voilà, ça c'est ouais. Vraiment le format, plateau d'artistes, 5-6 artistes qui s'enchaînent. Là par contre on sait pas forcément qui sera là et c'est un peu la surprise. Et pour les artistes, à quoi ça sert? Bah, c'est un lieu parfait pour tester des vannes et se faire repérer. C'est pas là que tu vas faire de la thune, hein, parce que bien souvent c'est au chapeau. Donc, mais par contre, tu testes ton spectacle, tu testes voir si c'est marrant, tu te rôdes en fait. Hein, c'est à ça que ça sert. Et hier, ces comédie clubs, ils étaient très confidentiels avec le premier sans doute médiatisé, ce qui s'appelle le Jamel Comedy Club, qui a été pompé sur les formats des comédie clubs à New York, hein, qui est avec ce format-là. Puis depuis, le concept s'est largement étendu. Et aujourd'hui, hier confidentiel, aujourd'hui, ce sont devenus des véritables médias, et notamment des médias en ligne. Je vous donne un exemple avec le Fridge Comedy Club, que vous pouvez aller suivre sur Instagram, Fridge Comedy, 35 000 abonnés sur Instagram. Alors le Fridge, c'est un comedy club qui est dans le deuxième à Paris, qui s'est fait maintenant une grosse réputation sur la scène hein, des comedy clubs. C'est un comedy club qui a été créé par Kev Adams, voilà, le comique, comédien, appelez-le comme vous voulez, hein, qui a lancé ça en 2020. Et en moins de deux ans, eh bien, le spot est devenu vraiment un incontournable de la scène stand-up à Paris. À peu, si t'es stand-upeuse ou stand-upper, il faut que tu passes à un moment donné par le Fridge, c'est obligatoire. Et si tu vas sur leur compte réseaux sociaux, tu vas constater que c'est bien plus qu'une scène, tu y vas, c'est un obligatoire, pas seulement parce que tu vas avoir ce soir, le soir même, 50, 60, 100 personnes qui vont rigoler à ta vanne, mais aussi parce que c'est un endroit d'exposition, de création d'audience en ligne.
Coches des cases, quoi, dans ton
parcours. Et il y a des captations, surtout vidéo. Les spectacles sont captés de façon qualitative en vidéo, avec un son parfait, etc. Et tout ça est ensuite diffusé en mode petit extrait, format reel, notamment sur Instagram. Et forcément, pour un stand-upper en devenir, quelqu'un qui émerge, se retrouver sur le compte Instagram du Fridge, c'est la capacité d'accéder à davantage d'audience. Si vous jetez un petit coup d'œil à ces vidéos sur l'Insta du Fridge, bah vous allez voir qu'il y en a certaines qui ont viralisé très fort. Hein. Je pense notamment à cette vidéo qui parle de cambriolage, qui est très drôle d'ailleurs, qui parle de cambriolage, un spectacle de Nino Rial qui fait 300 000 vues hein, sur Reel. Donc effectivement, les comedy clubs sont eux aussi en train de se transformer en médias, avec des formats qui parfois même vont au-delà de la capta du spectacle. Mmh. Il y a des micro-chroniques un petit peu à la Combini, des interviews, etc. etc.
Et ce que j'ai observé, hein, pour aller un peu plus loin dans ce que tu dis, c'est tous ces stand-uppers qui ont déjà un peu de bouteille, hein, qui ne sont pas juste restés derrière leur écran, qu'on fait justement des comedy clubs ou plein de scènes comme ça, ils ont justement réutilisé ces captas. Les captas leur sont fournis et ça leur permet de faire un contenu de qualité. Il y en a, leur Insta sont remplis de ça, et j'ai l'impression que le média, donc le Comedy Club, leur fournit tous ces éléments.
Bah peut-être que ça fait partie du deal qu'ils ont ensemble aussi. Hein,
donc ça rend le truc plus quali et déjà plus pro, eux, dans leur prise de parole.
Et puis alors, si on parle de Comedy Club, comment ne pas parler du TikTok Comedy Club ?
Alors ça c'est un bon délire. On parlait aussi de créateurs de contenu. On sait que TikTok connaît le potentiel des créateurs de contenu. Comme elle lancerait un nouvel outil de création de contenu, et bah, TikTok a lancé fin 2022, en décembre, un concours de stand-up, le TikTok Comedy Club. Pour participer, rien de plus simple, poster en public une vidéo humoristique face cam de 1 minute avec le hashtag, bien sûr, TikTok Comedy Club, puis soumettre sa candidature via un lien. Jusque-là, c'est de la participation. T'as bien sûr une page TikTok, hein, TikTok Comedy Club, comme une tendance où tu peux voir tout ce qui s'est passé autour de ce hashtag. Le hashtag, hein, ça vient de commencer, globalement, ça fait moins d'un mois, déjà 1,1 milliard de vues. Ça a lieu du 15 décembre au 8 janvier pour les phases de sélection. En ce moment, on est dans les finales. Les 5 finalistes se verront offrir une place pour une tournée à la Cigale. Ce que je trouve assez ouf, encore une fois, avec TikTok, c'est qu'ils ont réussi encore un pari de ramener les gens sur du physique. On est sur un événement complètement social media de base, et le but, c'est d'aller les emmener en physique et que les audiences se déplacent dans les salles pour voir ces gens pour qui ils ont voté.
Bah, c'est un peu le TikTok Made Me By It, mais ouais, pour l'humour, quoi.
Carrément, ou les cuisines TikTok, où TikTok voulait que tu achètes en vrai les plats. L'événement, il est parrainé par d'autres stand-uppers, hein, qui sont bien présents sur TikTok, comme Baptiste RLT, Redouane Bougueraba, qui est aussi le parrain d'ailleurs. Alors forcément, un concours comme ça, bah, ça peut être très drôle parce qu'il y a des tonnes de vidéos, je me suis vraiment aspiré ce matin, mais ça peut aussi être pas très drôle pour les gens qui sont moins drôles. Du coup là, ça taille vraiment sévère. Donc c'est un public très dur, je pense, si t'as pas le bon humour, si t'as pas la bonne captation. Et par ailleurs, hein, donc là on est sur une finaliste, un grand show 100% TikTok sera diffusé en live le soir de l'événement, lorsqu'il y aura le truc à la Cigale. Et donc ça sera là une super occasion pour les jeunes humoristes de faire aussi décoller leur carrière et de venir se regrouper dans le live.
Ouais, on le voit, le pont entre les réseaux magnifique sociaux et la scène, il est énorme. Et certains stand-uppers, ils ont littéralement explosé sur les réseaux sociaux. C'est notamment le cas forcément de Hakim Djemili. Alors Hakim Djemili, on en a déjà parlé ici dans ce podcast, je pense qu'il y a 2 ans. Peut-être même davantage, il y a peut-être même 3 ans. Et Hakim Djemili, avant d'être le stand-upper qu'on connaît, hein, Hakim Djemili, eh bien, c'est un pur produit du web, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Il s'est d'abord illustré sur YouTube avec un collectif qui s'appelait le Whoop. Whoop, je ne sais pas si tu te souviens, dans lequel il y avait aussi Mister V d'ailleurs, hein, donc un collectif qui a fait émerger quand même des talents de l'humour français. Et Hakim Djemili aujourd'hui, eh bien, c'est un carton énorme sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, hein, qui est, on va dire, son champ de tir habituel, avec un style très très à lui. Et je voulais juste vous inviter à aller écouter un épisode passionnant d'un podcast. Ce podcast, il s'appelle Dinguerie Room. À écouter. Alors Dinguerie Room, c'est un podcast qui est animé par Amel Chabi. Est-ce que ça te parle, Amel Chabi? Eh bien, c'est une ancienne du Jamel Comedy Club, première saison du Jamel Comedy Club, autant dire, on va dire une ancienne du monde de l'humour. Et podcast passionnant d'ailleurs, dans lequel elle reçoit que des stand-uppers, donc c'est vraiment vraiment intéressant. Et il y a cet épisode dont je vous mets le lien avec Hakim Djemili, dans lequel on apprend réellement son parcours, d'où il vient, comment il a émergé, etc. Et sur lequel il y a un gros morceau aussi sur les réseaux sociaux, et notamment lui, comment il est passé d'un truc où les réseaux sociaux l'ont aidé à émerger, hein, les plateformes sociales l'ont aidé à émerger. Et puis derrière, aujourd'hui, maintenant, la responsabilité qui est la sienne face à cette audience, c'est-à-dire au-delà de ses messages d'humour, hein, de ses vannes, etc., comment il peut utiliser bénéfiquement ses communautés pour véhiculer un certain nombre de bons messages, pour faire changer les choses, etc. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Et le Hakim Djemili qu'on connaît sur Instagram, qui a son perso bien à lui, est très différent en audio.
Celui
du podcast. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller l'écouter.
Hein. Ah, lui, c'est vrai. Vraiment ma pépite, je m'en mets un ou deux le soir, j'adore. Moi, je voulais te parler aussi d'une nana, elle s'appelle Anna Godefroy. Elle est française, c'est 703 000 abonnés sur TikTok et c'est là qu'elle s'est fait connaître. Hein. J'ai vu une interview sur elle, c'est ça qui m'a intéressé. Alors, en parler, elle tient aussi maintenant une chronique sur RTL2 et elle commence à être bien présente dans les salles de stand-up. Mais elle le dit, hein, les réseaux ont vraiment accéléré sa montée en puissance et lui ont donné plus vite accès à la scène. Hein. C'est ce que tu disais un petit peu avant, c'est vraiment un passage obligé. Aujourd'hui, si tu veux faire un événement et louer une grande salle à Lyon, on te dit ok, bah vous avez quoi comme communauté, vous avez quoi comme comme audience, comme client potentiel.
Avant que je vous prête la salle ou avant que je mette des ronds pour produire ton spectacle, bah là, est-ce que t'as une audience déjà?
Là, c'est exactement pareil. Donc 703 000 abonnés, tu commences déjà à avoir des portes sympas. Son format à elle, hein, c'est des vidéos de 30 secondes à 1 minute face cam. Elle publie à peu près tous les 2-3 jours sur TikTok, donc il y a un gros rythme. On a des vidéos qui montent à 2-3 millions, donc franchement, c'est très suivi. Et elle a fait des partenariats de marque, et un qui m'a fait mourir de rire, c'est avec Centracor, donc c'est un peu Gifit, c'est aménagement, etc. Et elle joue le rôle d'une fausse influenceuse un peu ringarde à l'intérieur du Centracor, donc c'est clairement l'image perçue de Centracor, hein, par les gens. Donc elle joue le contre-pied du truc, et c'est là où tu trouves ça vraiment intéressant et que ça fait le lien aussi avec les créateurs de contenu, c'est que la marque la laisse faire. Et voilà, elle va faire cette vidéo qui est un peu ringarde dans Centre Accor pour pousser une marque. Donc je trouve ça intéressant de les utiliser. Il faut bien faire gaffe quand t'es une marque. Mais en tout cas, ça ouvre plein de portes pour elle et pour les autres stand-upers.
Et tu vois, il y a des choses qui ont vraiment changé dans le monde de l'humour. Et pour ça, pareil, je m'appuie sur un podcast, hein, un podcast qui s'appelle 4 comiques, dans le vent mais à contresens. Je sais pas si tu connais ce podcast.
Pas du tout.
Podcast très marrant, produit par Seb Melia, voilà, qui est lui aussi stand-upper. Hein. Podcast qui est disponible sur toutes les plateformes, qui est complètement aléatoire. C'est-à-dire, ça sort une fois tous les 3 mois, mais mais quand ça sort, c'est vraiment intéressant. Et dans l'épisode 14, donc le dernier épisode en date de 4 comiques dans le vent mais à contresens, il reçoit plein de monde issu de la scène stand-up et un vieux de la vieille, Anthony Cavana. Voilà.
Okay.
Anthony Cavana, je veux dire, ça date. Hein.
Ouais. Avant YouTube.
Et ils ont un morceau de discussion. Alors, je vous invite à écouter cet épisode. Il y a un morceau de discussion très intéressant dans lequel Anthony Cavana explique qu'à son époque, ce qui se passait, c'est que tu étais un peu drôle et tu avais un producteur qui pariait sur toi. C'est-à-dire, tu n'avais pas d'audience, il te voyait, il disait, lui, il est un peu drôle, je vais parier sur lui, je vais produire sa tournée, je vais l'aider à devenir encore plus drôle, comme un chanteur. Mmh. Et puis, je vais le faire émerger, et puis, on va passer par toutes les étapes jalons, les petites salles, etc., constituer une audience. Et il dit, aujourd'hui, c'est très différent pour les stand-uppers, et c'est beaucoup plus difficile. C'est-à-dire, il n'y a plus de producteurs qui parient sur quelqu'un. Ils ont besoin avant de garantie. Et la garantie, eh bien, c'est l'audience, c'est les communautés que tu as déjà en ligne. En gros, il faut que tu sois d'abord ton propre producteur, que tu puisses émerger avant de... Et ce qui, parfois, n'est pas une évidence quand tu es un comédien, quand tu es un artiste, d'arriver à faire à la fois ta promo et à la fois ton art, hein, c'est-à-dire être drôle.
Oui, avoir ce côté déjà business, mais c'est sûr que je me le disais, là, je me disais, mais ces mecs-là, ils ont 2 millions d'abonnés. 2 millions d'abonnés, tu fais un sondage, moi je pense mécanique social media, tu fais un sondage, qui vient si je fais une salle? Tu réserves une grosse salle, t'es sûr de la remplir?
Et ben justement, j'ai une histoire un peu dans cet ordre-là, qui est l'histoire de Étienne et Antoine. Voilà, si vous ne connaissez pas Étienne et Antoine, eh bien vous allez très vite en entendre parler. Étienne et Antoine, ils t'ont donné rendez-vous le 30 juin. Voilà. Ils te donnent rendez-vous le 30 juin. L'histoire, elle est très marrante, ça se passe du côté de YouTube. Étienne et Antoine ne sont jamais montés sur scène, ils n'ont jamais fait de stand-up de leur vie. Ils sont inconnus sur YouTube. Il y en a un qui est un ancien podcasteur, l'autre c'est un DJ. Et ils ont déboulé sur la plateforme en disant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réserver une grosse salle. Une grosse salle, une salle de 1000 personnes, le Trianon à Paris.
Donc là, ils payent plein pot une salle. Hein,
on paye plein pot une salle le 30 juin 2023. La salle, elle est réservée. Ça y est, c'est fait. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va documenter de maintenant jusqu'au 30 juin notre apprentissage, notre découverte du monde du stand-up et comment on va devenir stand-upper, sachant qu'on a une deadline, c'est que le 30 juin, on va remplir cette salle. Et je trouve le pari assez génial. C'est à suivre sur YouTube. C'est vraiment un régal à suivre. Une vidéo tous les 15 jours. C'est une vraie belle production. Ils ont un pote qui les suit tout le temps dans leurs aventures et on les voit passer par toutes les étapes nécessaires à devenir un stand-upper, c'est-à-dire passer par le fridge, justement, on en parlait tout à l'heure, passer par les petites salles.
Ils vont monter sur scène du coup.
Ils sont montés sur scène, ils essayent en tout cas de créer un sketch, etc. Ils rencontrent d'autres stand-uppers qui leur donnent des tips, ils essayent d'affiner leur art, hein, de découvrir ce que c'est que ça. Donc si tu veux plonger dans les coulisses du monde du stand-up et découvrir ce que c'est en partant de zéro, je trouve ça vraiment fascinant. Je dois dire que je me suis laissé happer par cette web-série documentaire. Tous les 15 jours, un nouvel épisode. Je vous mets le lien en note de cet épisode. C'est vraiment très cool. Et là, ce qu'on voit bien, c'est que la stratégie, elle est amusante, je trouve, parce que c'est du building public.
C'est l'inverse, en fait.
C'est du building public. Ils créent une communauté sur le fait qu'ils sont en train de devenir. Hein, de building public, on en a déjà parlé ici. C'est très intéressant quand tu as une marque à ramener ça aussi à ta communication de marque. C'est ce qu'ils font pour eux. Et puis, je trouve aussi que c'est un bel exemple de création d'audience avant le lancement du spectacle. Parce que le pari qu'ils ont, il est double. C'est non seulement d'être drôle le 30 juin, mais surtout, d'ici là, de constituer une audience suffisamment grande qui permette d'aller remplir la salle. Et ça, je trouve ça génial. Allez les suivre sur YouTube, Étienne, Antoine.
C'est très cool à voir. Moi, j'ai un dernier petit truc à te raconter un peu. Je regardais aussi, donc il y a cette notion de créateur de contenu, de gens qui se font connaître depuis les réseaux. Et puis, il y a aussi ceux qui pourtant ont tout à fait l'âge d'être nés sur les réseaux, comme Paul Mirabel, par exemple. Lui, il n'est pas arrivé d'ici.
Non, pas du tout, c'est
repéré, il a fait un cours Florent, je crois, un truc comme ça. Il a été repéré. Et ensuite, il a fait un peu le parcours à l'ancienne, finalement. Et pour autant, ce qui est intéressant, c'est que lui, il l'utilise utilise quand même énormément TikTok, hein, c'est 1,5 million d'abonnés, et il l'utilise davantage en recyclage. Il recycle des morceaux de spectacle, hein, qu'il met sur son TikTok. Il le fait vivre, il anime la communauté, il utilise des codes de TikTok. Pour autant, il n'est pas dans la création de contenu façon TikTok avec du filtre ou autre. C'est vraiment voilà, juste du recyclage, mais bah, comme tu as pu l'échanger avec Léopold ce matin, c'est un passage obligatoire. C'est pas pour ça que tu dois commencer par être drôle sur les réseaux. D'ailleurs, avec l'histoire que tu nous racontais, c'est même pas pour ça que tu dois commencer par être drôle, mais en tout cas voilà, ça peut servir. Et lui, il a des vidéos qui vont jusqu'à 5 millions de vues alors qu'il n'est pas du tout TikTok born quoi.
Et puis on aurait pu parler de la fenêtre que tu offres, de visibilité que tu offres France Inter, hein, parce que dans le cas de Paul Mirabel, ouais, il est chroniqueur sur France Inter, et c'est vraiment aujourd'hui un tremplin, ouais. Là aussi ils se sont souvent exprimés sur le sujet, les humoristes, ils en font des vannes, ils vont pas pour la thune, hein, chez France Inter, mais pour le tremplin que ça permet. Et depuis maintenant que ces chroniques sont recyclées en format vidéo, en format podcast par France Inter, c'est évidemment une visibilité accrue, et c'est notamment le cas de Paul Mirabel.
Salut les beaufs aussi.
Et effectivement de
Trani.
Est-ce que t'as d'autres choses à raconter?
Non, écoute,
sur ce sujet
écoute, voilà, c'est un sujet qui peut être très très long.
Ça t'a donné envie d'aller voir des spectacles là, bah, ouais, ce que t'as vu en ligne?
Bah moi je kiffe, hein, tu sais, j'aime bien aller à Lyon, petite salle, le boui-boui, pareil dans une cave où j'ai 2-3 gars que je retourne voir, comme Callaghan par exemple, avec son humour particulier, mais que je retourne voir quand il repasse à Lyon, et puis j'aime bien en découvrir. Alors en effet, à l'ancienne, hein, des fois t'es déçu, hein, parce qu'il y en a sur qui je me renseigne pas, et des fois c'est pas ouf, mais j'aime bien l'ambiance quand même.
Voilà. Les amis, si vous aussi vous avez découvert des stand-upers, grâce aux réseaux sociaux, venez dropper du nom. Droppez-nous tout ça sur les réseaux sociaux, @supernatif, sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok, là où tu veux, on est. Et puis, vous écoutez cet épisode de podcast, eh bien, dans une appli de podcast. Un grand merci à vous.
Ça nous fait très plaisir.
Voilà, balancez les 5 étoiles, balancez le petit com qui va bien. Pourquoi ? Bah parce que d'une, ça flatte notre ego, et de deux, ça nous booste dans les algorithmes. Donc, merci à vous. On vous souhaite un très très bon week-end, et on vous donne rendez-vous dès
Lundi.
Bah, lundi. Salut,
ciao.
Bon,
ciao. Salut.